vous les comprendre?
Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps. Donnez-moi la force de comprendre,
car ces visions me servent. Bonjour Martin Carly.
Bonjour.
Bonjour Martin. Là, les gens qui donnent à des organismes, des fondations, comme par exemple la Fondation canadienne du cancer,
ouais,
ou peu importe lesquels, et qui se demandent tout le temps où va leur argent,
ouais,
vont avoir une belle réponse ce matin parce que là, absolument, c'est vraiment concret, là.
Tout à fait. On parle ici d'une découverte majeure dans le domaine du cancer qui pourrait augmenter de façon spectaculaire le taux de survie éventuellement pour ceux qui sont affectés par cette maladie-là. Et on sait que c'est une grande partie de la population qui va être affectée au cours de sa vie par une ou une autre forme de cancer, bien entendu. Et là, ben oui, on a une découverte canadienne qui a été faite en Alberta et qui a été financée en grande partie par la Société canadienne du cancer. Donc, il y a sûrement plein de monde qui nous écoute présentement qui ont donné à cette Société canadienne du cancer-là, oui, et qui seront très heureux de savoir ce matin qu'il y a une découverte majeure à la clé, donc suite à cet investissement-là, si on veut, ce financement-là. Alors, c'est quoi cette découverte-là? Ben, on a trouvé un moyen où on a trouvé de nouvelles cibles thérapeutiques pour bloquer les métastases de tumeurs. Ça, c'est capital, parce que 90 % des décès associés à un cancer sont causés par les métastases. C'est ça qu'il faut combattre,
parce
absolument.
Il faut comprendre que, par exemple, quelqu'un qui a un cancer avec une tumeur localisée, on peut aller, ben, il n'y a pas une garantie de survie, mais en allant traiter la zone,
ouais,
les chances sont plus grandes. Mais à
tout
partir
à fait
du moment où il y a des métastases qui s'installent, ça veut dire que le cancer se répand ailleurs dans le corps, là.
Tout à fait. Il peut aller partout, il peut aller dans les poumons, il peut aller dans les os, ainsi de suite. Et c'est vraiment les métastases qui sont meurtrières. Et en plus, les métastases, ben, c'est dur de les empêcher. On peut pas filtrer le sang. On peut pas, comment tu veux empêcher des cellules, donc tu es à l'échelle microscopique, de se détacher d'une tumeur pour aller ailleurs dans le corps et démarrer une autre tumeur ailleurs. Donc, c'est pratiquement impossible à faire. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des moyens pour empêcher carrément les tumeurs de faire des métastases. Et ça, ben, on peut intervenir de différentes façons. Et là, on a des cibles génétiques au niveau de ces tumeurs-là qui sont franchement très intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont des chercheurs de l'Université d'Alberta. Ils ont développé leur propre plateforme, leur propre modèle animal, si on veut, pour pouvoir voir l'évolution et la croissance d'une tumeur en temps normal, en temps réel. Ils ont réussi à développer un modèle. En fait, ils ont des embryons d'oiseaux qui se développent, mais sans coquille. Et ils sont capables de voir ce qui se produit avec les tumeurs qui se développent dans ces embryons-là, là, en temps réel. Mmh. Et ça veut donc dire aussi qu'ils sont capables donc de modifier les caractéristiques génétiques de certaines tumeurs cancérales pour par la suite voir ça a quoi comme effet sur la tumeur et est-ce qu'elles deviennent métastatiques ou pas. Donc, c'est vraiment leur objectif à eux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, essentiellement, ils ont pris des cellules de tumeurs et ils ont modifié certains gènes grâce à des vecteurs là, génétiques. Donc, ils étaient capables de modifier un gène à la fois pour essayer de voir quel effet ça va avoir sur la croissance de la tumeur et surtout sur l'aspect de la tumeur.
Okay.
Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'en modifiant ces gènes-là un par un, ben ils pouvaient voir la tumeur. Est-ce que la tumeur était très compacte? Si elle était compacte, c'est parce qu'elle n'avait pas les caractéristiques d'une tumeur métastatique. Donc, il va faire des métastases.
Elle allait se développer plus.
Exact. Donc, il va carrément laisser aller des cellules
donc,
comme ça,
okay,
pour aller faire des métastases ailleurs. Donc, les tumeurs compactes sont vraiment des tumeurs qui ne font pas de métastases là, dans ce modèle-là. Et donc, dès qu'ils avaient des tumeurs compactes, ils savaient que la modification génétique qu'ils venaient de faire avait eu un effet. Donc, ils ont isolé ces cellules-là. Ils ont été identifiés quelles modifications génétiques ils avaient fait dans cette tumeur-là qui avait entraîné cet effet-là. Et ils ont réussi à déterminer 11 gènes essentiels pour le développement de métastases. Donc, ils ont identifié ces 11 cibles-là. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça semble être des gènes qui s'appliquent à n'importe quelle sorte de cancer. Donc, c'est des gènes qui sont pas spécifiques à un cancer, mais qui seraient utiles pour toute métastase, peu importe la tumeur. Là. Donc, on aurait peut-être une porte large.
Quelque
là
chose de bien, parce que souvent, on fait des recherches pour le cancer du sein,
ouais,
et bon, pour plein de types de cancers,
ouais,
mais on fait aussi de la recherche pour le cancer globalement.
Ah, tout à fait.
Et c'est rare qu'il y ait une découverte qui touche le cancer.
Ben, quand on trouve quelque chose qui a un point commun entre plusieurs
ben oui
types de tumeurs, c'est avantageux,
ouais,
parce qu'à ce moment-là, on sait que, OK, si on trouve une molécule qui va aller agir sur ce gène-là, ben on risque d'affecter pas mal de cancers en même temps. Ça, c'est utile. Ça, c'est bien, bien le fun. Donc, dans ce cas-ci, on est vraiment rendu là. Maintenant qu'on a identifié les gènes, et avec les techniques de génie génétique, on est capable de savoir c'est quoi exactement la séquence d'ADN de ces gènes-là, pour être capable de savoir ces gènes-là produisent quel type de protéines, et donc, quel médicament ça prend pour aller jouer sur ces protéines-là? Donc, ben, la prochaine étape, c'est avec ces 11 cibles-là, trouver des molécules, des médicaments qui peuvent aller carrément affecter ça et empêcher les métastases.
Martin, je t'écoute souvent, puis depuis longtemps,
ouais.
À la radio et à la télé, et tu parles souvent de cancer parce que beaucoup de recherches se font sur le cancer.
Ouais.
Est-ce que tu as l'impression, toi, là, en tant que scientifique,
ouais.
que tu vas pouvoir un jour nous annoncer on va le guérir.
Ben, je l'espère à tout le moins. Une chose est certaine, c'est qu'on se rapproche de plus en plus.
Ça, de la réponse,
oui.
de la solution.
Et en même temps, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les traitements généralistes, si on veut, là, ben, seront peut-être pas la solution définitive. On est de plus en plus en train d'envisager des traitements personnalisés. Donc, tu rentres à l'hôpital, tu as une tumeur dans ton corps à toi. Est-ce qu'on est capable de déterminer certaines caractéristiques de ta tumeur à toi pour te faire
un traitement personnalisé.
Personnalisé pour toi? Donc, c'est vraiment là où on s'en va. Et ça, ben, j'espère qu'on va avoir cette solution-là avant que je décède d'un cancer.
Ce dont on parle beaucoup aussi en matière de santé, c'est l'Alzheimer, parce
oui.
que ça demeure tellement mystérieux.
Ouais.
Et là, il y a une théorie qui refait surface.
Oui, la théorie du rôle des virus dans cette apparition de cette maladie-là. Une maladie terrible. Ça permet de faire ces deux nouvelles-là aussi, ça permet de voir le beau et le moins beau côté du financement de la recherche. Parce que lorsqu'on parle de maladies comme le cancer qui tue du monde, bien, le financement est souvent plus facile à obtenir que lorsqu'on parle de maladies neurologiques qui, elles, ne tuent pas du monde, mais affectent grandement leur qualité de vie. Et ça, c'est souvent une grande injustice. Moi, j'ai fait mon doctorat en sciences neurologiques. Puis quand on parle de financement de maladies neurologiques, c'est
tout ce qui touche, par exemple, la maladie mentale.
Maladie mentale.
Tout le monde court après l'argent. Là.
Exactement. Et il y a un sous-financement dans ce domaine-là. Il faut continuer toujours à appuyer sur les différents leviers. Pour dire, c'est important, ça change la qualité de vie, pas juste la personne affectée, mais toute sa famille autour. Quelqu'un qui a l'Alzheimer. Quand toi, j'ai vu une vidéo récemment sur Facebook, quelqu'un qui nous montre pour la première fois que sa mère ne se souvient plus de lui, ben c'est terrible à vivre dans une famille. C'est vraiment une grande tragédie. Là, t'as un homme mûr comme ça qui pleure comme un bébé dans son auto devant sa GoPro en disant « c'est la première fois de ma vie que ma mère ne me reconnaît plus ». C'est terrible. Et ça, faut en parler parce que c'est ça qui... Ça tue pas du monde, mais ça a des effets là, dramatiques sur
donc,
les familles.
La découverte qu'on a faite, c'est quoi? C'est pour
les origines.
C'est
déterminer
l'origine de la maladie.
Voilà. Donc, la théorie la plus en vogue, c'est il y a des plaques de bêta-amyloïdes, là, donc des plaques collantes qui se forment puis qui s'accumulent dans notre cerveau, ce qui rend les neurones moins fonctionnels. Donc, il y a comme trop de déchets qui s'accumulent, ça fonctionne moins bien. Mais là, essayer de contrôler ces plaques-là, jusqu'à maintenant, on n'y arrive pas. On ne réussit pas à traiter l'Alzheimer en contrôlant ces plaques-là. Alors là, une nouvelle nous arrive. Il y a une théorie depuis longtemps qui nous parle d'infection en bas âge qui pourrait avoir un impact des décennies plus tard, par exemple, dans le développement de la maladie d'Alzheimer. Donc, par exemple, certains virus, comme des virus de l'herpès là, qu'on peut avoir en étant enfant, il n'y a pas de symptômes, c'est dormant dans notre corps, mais ça pourrait avoir un effet des décennies plus tard.
Mais on ne sait pas quel virus exactement. Là.
Non, ben là, ici, on parle, dans cette étude-là, on parle vraiment de certaines formes du virus de l'herpès, donc herpès génital ou herpès buccal, ici, qui seraient liés par la suite à des conséquences au niveau de l'Alzheimer. Là, c'est franchement très intéressant parce qu'on savait déjà, on avait de plus en plus de preuves que l'agressivité du système nerveux face à une infection pouvait des fois être plus grave que l'infection elle-même. Tu sais, si ton système immunitaire réagit trop fort, ça peut être plus dangereux que l'infection que ton système immunitaire essaie de combattre. Donc ça, on le savait déjà. Alors dans ce cas-ci, ce qu'on se rend compte, c'est que des virus qui auraient pu se retrouver dans le cerveau éventuellement par un mécanisme qu'on ne connaît pas encore pour le moment, auraient pu justement forcer la formation de ces fameuses plaques de bêta-amyloïdes qui aurait le rôle dans notre cerveau d'absorber tous ces agents microbiens qui viennent de l'extérieur pour protéger le cerveau. Ça veut dire que ces microbes-là, ces virus-là, par exemple, pourraient déclencher la formation de ces plaques-là qui vont avoir l'effet par la suite de causer les symptômes de l'Alzheimer. Mais là, on pourrait peut-être avoir mis le doigt sur c'est quoi la source là, du développement de ces plaques-là.
Là, on n'est pas dans le traitement, mais dans la prévention, en fait. Ce qui est intéressant aussi.
Éventuellement, là, ouais. Oui. Puis de développer aussi des cibles de traitement par la suite. C'est sûr que pour le moment, ça n'affectera pas le traitement ou la manière dont les gens sont traités actuellement. Mais éventuellement, ça pourrait nous permettre de revoir complètement la façon dont on envisage cette maladie-là. Donc, de voir que, ouais, il y a peut-être des virus qui se ramassent dans notre cerveau. Mm-hmm. On pensait que c'était pas possible, mais là, on se rend de plus en plus compte qu'il peut y avoir toutes sortes d'agents extérieurs qui peuvent se ramasser dans le cerveau.
Bon, Martin, il nous reste seulement quelques secondes, mais on doit saluer le départ de Coco le gorille.
Oui, à 46 ans, Coco le gorille, qui est un gorille rendu célèbre parce qu'il était capable de communiquer avec les humains avec le langage des signes. Il a été rendu célèbre dans des émissions de télé aux États-Unis. C'était le grand ami de Robin Williams. D'ailleurs, quand on a appris au gorille que Robin Williams était décédé, le gorille
on
a été
émotion,
déprimé. Ouais, absolument. Il avait adopté un chat. C'était vraiment un gorille absolument fantastique. À l'âge de 46 ans, il était capable d'utiliser 2000 mots. Imagine-toi, c'est énorme. Là. C'est beaucoup. Pensez-y dans votre vie
tous les jours.
Ben voilà, exactement. Et là, ben, ce gorille est décédé cette semaine. Je voulais vous en parler parce que c'est pas mal. Le but de la vie de ce gorille-là, c'était pas mal de sensibiliser essentiellement les humains au fait que les animaux n'étaient peut-être pas si niais qu'on aurait pu le penser.
Donc on peut le penser.
Des fois.
Merci beaucoup, Martin Carlier. À la semaine prochaine.